Une femme peut être vue comme une sorcière sans que le mot soit prononcé.
Weakness, fear, and hopelessness die. Strength, power, and courage will come.
En fait, on envisage la possibilité de se faire insulter, de se faire frapper, de se faire humilier en public.
I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive.
Women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up.
Bonjour, bienvenue à Reine des Terres, le podcast qui décortique le système matriarcal et qui tente d'y survivre. Aujourd'hui, nous allons parler des shoujo et particulièrement des Magical Girls avec le podcast Shoujo Story.
Hello, hello.
Hello.
On est un podcast qui, comme son titre l'indique, est spécialisé dans le shoujo. Et on est surtout un podcast de recommandations, donc rien de très professionnel. C'est surtout pour parler de notre passion avec d'autres passionnés du Japon, des mangas et des shoujo. Et parler de nos découvertes, parler d'auteurs ou d'autrices qu'on aime, et un peu parler aussi de l'histoire du shoujo. Voilà.
Essayer d'instruire en fait le plus de monde au shoujo, puisque aujourd'hui on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'adeptes de shonen sur la planète manga, et beaucoup trop peu de personnes qui parlent de shoujo sur internet. Et le podcast était la meilleure manière en fait de pouvoir décrire des histoires, raconter ces histoires à un public. Et vu que nous, on est des grandes passionnées, on voulait pouvoir partager ça avec le plus de monde possible.
Donc tout d'abord, est-ce que vous pouvez présenter un peu ce que c'est un shoujo? C'est pour quel public? C'est quoi les schémas de narration, les codes, tout ça?
Un shoujo, ça fait partie des genres, en fait, des termes qu'on utilise pour définir un manga qui est destiné à un public féminin jeune. Donc l'âge, c'est entre 8 et 18 ans, normalement. Ensuite, vous avez plusieurs autres termes qui définissent un manga qui est typé, on va dire, pour les femmes, pour un public féminin. Même si nous, on n'aime pas du tout ce terme-là.
Et la
on
preuve pense que... dans nos auditeurs et auditrices, il y a énormément
de garçons, de personnes non binaires, de personnes trans.
Donc, ça ne veut rien dire, voilà. Mais on parle de manière générale et pour que ce soit c'est accessible ça. À tous.
Et surtout, on parle avec des termes japonais, puisque le manga, faut pas l'oublier, c'est quand même un art japonais. Donc, on parle avec les vrais termes. Les termes réels, quoi, qui sont utilisés dans les magazines de prépublication au Japon. Et donc le shoujo, ça s'adresse, comme je disais, à un public jeune, donc 8 à 18 ans. Ensuite, vous avez d'autres termes qui définissent pour le public féminin toujours plus adulte. Donc vous avez par exemple le josei ou josei et le seichin. Et puis après, on a plein d'autres choses, notamment ce qui fait figure de ce podcast, le maou shoujo, donc le magical girl, qui est un sous-genre de la fantasy, qui est vraiment centré sur des jeunes filles qui pratiquent la magie. Il y a le yaoi aussi, le yuri, qui sont d'autres mangas.
D'autres sous-genres.
Sous-genres qui sont centrés sur des relations sentimentales homosexuelles, donc entre hommes ou entre femmes. Et puis ensuite, on a plein d'autres genres dont on peut parler pendant des heures, puisque le manga, en fait, c'est
tellement large. C'est beaucoup plus large que ce qu'on pense. C'est vrai qu'on pense souvent à shoujo, shonen, mais en fait,
c'est ça. Et puis ces termes-là, ils sont vraiment utilisés principalement dans les magazines de prépublication, comme on disait, puisque c'est de là qu'un manga devient connu au plus grand public, et notamment les mangas de Magical Girl aussi. Qui était édité dans des grands magazines de publication spécialisés sur le shoujo, comme le Margaret, par exemple, ou le Anato Yume.
D'accord. Et est-ce que vous avez des exemples de shoujo, ou du coup du sous-genre Magical Girls, qui sont vraiment très connus et qui font vraiment partie de la pop culture?
Le premier qui vient à l'esprit, je pense, du plus grand monde, c'est Sailor Moon, Doremi.
Oui. Mais c'est vrai qu'en fait, on a fait un épisode spécial sur le Magical Girl où on décortique vraiment ce genre-là, en fait, ce sous-genre-là du shoujo de A à Z, et notamment de son début, en fait, jusqu'à son avènement avec la figure de Sailor Moon, ou comme Natasha dit, avec des figures un peu plus années 2000, comme Doremi, Magical Girl, etc. Et on en a aussi beaucoup parlé avec une de nos invitées, Rokoko Sehan, qui est très très fan de Magical Doremi et qui connaît extrêmement bien ce manga. Donc après, faudrait revenir même aux bases de l'histoire en fait du Magical Girl avec la Toei Animation, qui est la maison en fait
du Magical Girl
d'animation, qui a lancé vraiment ce terme-là avec des grandes séries de Magical Girl comme Sally la petite sorcière, Maotuka et Sally ou
Princesse Saphir.
Oui, Princesse Saphir, bien sûr, de Osamu Tezuka. Donc, il y a beaucoup de grands Magical Girl, mais qui sont très peu connus du grand public.
En fait, je pense que les premières séries Magical Girl sont un peu tombées dans l'oubli, et maintenant, on pense beaucoup à Sailor Moon, Doremi. Je pense que c'est les deux principales.
C'est vrai que, bah, après, ça a été vraiment diffusé en France aussi, pour le coup, à la télé, tout ça. Certains ont
c'est beaucoup plus
diffusé,
accessible.
Donc, à chaque fois.
Et est-ce que...
Sakura
la de...
Sakura, oui, Sakura Cardcaptor.
Pardon ?
Sakura Cardcaptor aussi, évidemment.
Ah, je connais pas.
Bah, c'est Sakura, la chasseuse de cartes, qui passait aussi beaucoup à la télé quand on était jeune.
De Clamp, ouais.
Voilà.
Oui, c'est vrai. Oui. Bah, en fait, il y avait une émission, c'est Midi les Zouzous,
oui.
Où ça passait, Magical Doremi. Et c'est comme ça, moi, personnellement, que j'ai connu. Mais c'est vrai que sinon, il faut creuser un petit peu dans le genre pour vraiment avoir les plus connus. La place de la romance dans les histoires de shoujo ou de magical girls, souvent on pense à un stéréotype du tsundere, je crois qu'on dit comme ça, du bad boy un peu. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous trouvez vraiment que c'est un peu quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ces histoires-là? Et qu'est-ce que ça veut dire du coup?
Je pense que oui, c'est vraiment un thème qui est important dans le shoujo parce que dans la majorité, si ce n'est tous les shoujo, il y a une histoire d'amour qui est présente. Donc c'est forcément quelque chose qui va être récurrent et qui va être un peu le centre de l'histoire. Alors peut-être un peu moins dans Magical Girl, parce que dans Magical Girl, on est plus centré sur la quête de soi, l'aventure, la magie, etc. Mais il y aura toujours une part dédiée aux relations et à l'amour. Après, c'est une thématique, je pense, qui a bien évolué au fil des ans. C'est vrai qu'au début, peut-être que c'était très stéréotypé et très cliché. Et au fil des années, au fil de l'évolution du shoujo, ça a pas mal évolué dans des relations un peu plus représentatives de la vie réelle, etc. Mais c'est vraiment une part extrêmement importante du shoujo et du coup du Magical Girl, évidemment.
Mais parce que ça fait ressentir des émotions.
Oui, et puis quand le shoujo, c'est ça, c'est l'amour. C'est les histoires d'amour, sinon tu lis un autre genre.
Ouais, enfin, je veux dire, à un moment, quand tu choisis de lire du shoujo, tu choisis de lire une histoire... c'est pas forcément une histoire pour filles, mais c'est une histoire où il y a des émotions, il y a des sentiments.
Il y a une évolution des sentiments, une évolution du personnage. Mais l'aboutissement, c'est quand même... Enfin, le but premier dans la majorité des shoujo, c'est que l'héroïne finisse avec la personne qu'elle aime, quoi. Donc, voilà.
Ouais, c'est compliqué. Après, pas dans les Magical Girl, par contre.
Non, mais il y aura quand même une part qui sera dédiée.
Il y a toujours une part. Mm. Mais par contre, dans les Magical Girl, il y a vraiment cette idée de sororité.
De sauver le monde.
et de filles super fortes, super puissantes.
Ouais,
donc, ouais, je suis pas forcément trop d'accord. Et il y a aussi pas du tout ce côté tsundere, je trouve, dans les Magical Girl. Parce qu'on parle vraiment à des petites filles et on veut vraiment donner cette envie d'être surpuissante. Mm. Mais pas en étant une fille distante, froide, hautaine, fière. Vraiment, le but, c'est plutôt d'être pleine de tendresse, je pense. Et
il y a ce côté sororité. Très insouciance et...
Ouais. Et je trouve qu'il y a moins aussi le garçon tsundere dans les Magical Girls.
Enfin, déjà, souvent, il a un personnage vraiment secondaire.
Ouais.
Il est là pour aider le groupe, mais il n'est pas là en personnage principal, contrairement au shoujo, où les deux personnages principaux, du coup, c'est notre héroïne plus son crush.
Ouais.
Dans Magical Girl, c'est vraiment... la femme qui est mise en avant et à côté t'as des sous-histoires dont l'histoire d'amour qui va être de temps en temps présente, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est un peu anecdotique dans les Magical Girls en soi, l'histoire d'amour. Oui. Et puis les personnages masculins, oui, ils sont là pour aider, c'est le cas dans Sailor Moon, New Power, tout ça, mais c'est pas, enfin, ça peut être un ressort dans les histoires, mais c'est pas le principal enjeu, comme vous avez dit. Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire que ça reflète ce que la société japonaise attend des jeunes filles dans les Magical Girls et dans les shoujo, ou plus une sorte d'exemple comme ça qui fait rêver?
C'est-à-dire
Est-ce que du coup dans ce genre d'histoire, est-ce qu'on pourrait penser que c'est ce que la société japonaise dit aux petites filles, qui dit il faut que vous soyez femmes comme ça, ou est-ce que c'est plutôt regarder ça, vous faire rêver de tout cela? Je sais pas trop si c'est bien dit.
Alors je pense qu'il faut pour le coup vraiment différencier Magical Girl et là le shoujo classique. Dans le Magical Girl, je pense que c'est vraiment une fantaisie. qui est pas du tout réaliste, bah du coup avec le côté magique, etc. Par contre le shoujo, alors je sais pas si on va être d'accord avec Sia, mais moi je pense que ça ça montre bien justement la société japonaise, comment elle veut percevoir la femme, c'est-à-dire être totalement dédiée à son amour. Après évidemment ça évolue, mais en général voilà, faut être full amoureuse de son compagnon, s'occuper de lui, être femme au foyer, lui faire son bento le matin, l'attendre le soir quand il vient du boulot, etc. Évidemment, ça évolue dans la société japonaise et aujourd'hui, il y a énormément de femmes qui s'émancipent, qui sont très autonomes et qui préfèrent dédier leur vie à leur travail plutôt qu'à leur famille. Mais c'est encore extrêmement présent, il faut le prendre en compte. Et c'est vrai que bah, je pense que c'est tellement un schéma présent et répétitif au Japon que c'est normal que ce soit représenté également dans les histoires, parce que c'est...
Ça fait partie de la culture.
Ça fait partie de la culture, de la société.
Mais après... Il y a comme un truc qu'on dit tout le temps avec Natacha qui est réel, c'est que ça, c'est une question que nous, on n'a pas forcément, je pense, le droit d'y répondre parce qu'on n'est pas japonaise, en fait. Nous, on a une position de femme française avec un regard
occidentalisé. On peut avoir un regard critique, mais...
Voilà, on peut avoir un regard critique, mais nous, on veut pas... On veut pas s'approprier une culture qui n'est pas la nôtre, en fait, et avoir un avis trop tranchant sur ça parce qu'on n'est pas japonaise.
En fait, c'est des faits.
On ne vit pas.
Enfin, c'est plus des faits plutôt qu'une, voilà, qu'une critique, mais du coup, je sais pas si c'est la représentation de la femme dans les mangas, c'est voué, enfin, c'est dit comme ça pour que ça incite les jeunes filles qui lisent ces mangas à devenir ainsi, mais je pense que c'est une représentation assez générale de ce que c'est que les relations amoureuses au Japon. Après, c'est très romantisé. C'est très peu réaliste dans la manière...
Mais dans le shoujo, du coup, pas dans le
Magical Girl. Dans le shoujo, oui, je parle du shoujo. Magical ouais. Girl, en vrai, non.
Non, pas du tout. Dans le Magical Girl, c'est vraiment destiné à un public très jeune. Donc, quoi qu'il en soit, c'est pour faire rêver. C'est de fantasy, quoi.
Oui, voilà, genre, c'est de la fantasy.
Vraiment, c'est pas du tout... Enfin, je pense qu'il faut pas non plus tout diaboliser. Et le Magical Girl, comme c'est pour des filles très jeunes, en soi, à part, par exemple, Utena, où là, on a d'autres questions qui viennent se mettre aussi dans l'histoire, comme le lesbianisme, etc. Et là, vraiment, ça devient un personnage queer aussi. Et ça part totalement dans une autre direction. Là, pour par exemple Magico Doremi, je pense qu'on est vraiment plutôt sur un animé très ludique, avec de la couleur, et qui emmène en fait les petites filles dans un monde onirique et imagé.
Ouais, mais ça t'amène quand même à être une mère qui s'occupe. Enfin, je me souviens qu'il y avait.
Ouais, il y a un côté maternel.
Ouais, il y a un côté, maternel. Avec le bébé qui est là. Ouais, il y a ce côté où il faut t'apprendre à s'occuper du bébé, à être.
Il y a un côté maternel, c'est vrai.
Mais.
C'est vrai. Bah, après, vous parlez d'une certaine sororité dans les Magical Girls, du coup. Parce que bah, dans les shoujo, est-ce qu'on pourrait pas des fois trouver que les femmes entre elles, donc il y a le personnage principal de la petite fille et tout qui est amoureuse et qui est un petit peu bah, pas comme les autres autour d'elle élèves. Et puis du coup, dans les Magical Girls, par exemple, quand on prend Magical Doremi, même les personnages secondaires qui sont pas du monde magique, par exemple, il y a un épisode sur le harcèlement où il y a le personnage d'Elena aussi qui va évoluer. Enfin, il y a plein de personnages autour qui, au final, se collent au groupe de Doremi. Et qui du coup finalement, bah, dans les interactions, ont des, une relation positive. Et du coup, est-ce qu'il y a ça aussi dans le shoujo ou c'est que propre Magical Girls ou vraiment c'est un groupe de petites filles qui va avoir de bonnes relations aussi avec les femmes autour, alors que dans les shoujo, c'est vraiment là l'héroïne qui est à part.
Je pense que dans le Magical Girls, c'est vraiment le but, c'est qu'il y ait une entraide entre un groupe de femmes. Pour justement se servir un peu des atouts de chacune, des défauts aussi, pour créer une symbiose et créer vraiment un groupe fort qui va permettre de combattre les forces du mal et sauver le monde. Donc il y a vraiment ce côté vraiment d'entraide où chacune va apporter sa pierre à l'édifice, alors que dans le shoujo, l'héroïne va vraiment évoluer d'elle-même de son côté, même si ses amis autour d'elle vont l'aider. C'est vraiment une quête personnelle, je pense. Plus qu'une sororité.
Après, il y a quand même toujours cet esprit amical avec
oui,
les filles
toujours,
à côté.
Mais j'ai l'impression qu'il y a moins Tolu, de poids.
Tolu avec ses amis.
Ouais, Tolu. Ouais, c'est vrai que par exemple, Fruit Basket, c'est différent. Il y a vraiment cette symbiose de groupe qui est très importante. Mais en général, dans les shoujo classiques, c'est très.
C'est représentatif de la vie, en fait. Parce que, de toute façon, les shoujo, c'est raconter la vie. Donc. Donc quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a plusieurs chemins en fait qui sont donnés aux héroïnes comme dans tout type de narration. Et après, c'est pas forcément cliché, c'est juste que on va aussi aller lire des trucs qui sont plus ou moins en adéquation avec notre vie personnelle, je pense.
Ouais, mais c'est vrai que le côté sororité est bien plus présent, d'après moi, dans le Magical Girl que le shoujo classique.
De toute façon, c'est l'idée qu'il y ait une sororité. Et notamment, tu te rappelles, tu avais parlé du Magical Sentai avec toutes ces filles qui étaient...
Les guerrières.
Ouais, les guerrières. Donc, il y a ça aussi.
Il y a le clan. Enfin, il y a le côté plus clan dans Magical Girl que...
Oui, justement, je voulais y revenir là-dessus. C'est que depuis Sailor Moon, du coup, c'est vraiment le Magical Girls qui ressort, c'est le côté clan. Mais avant, par exemple, quand on prend Creamy, Merveilleuse Creamy, il y avait des Magical Girls avant qui étaient très centrées sur une... Gigi, par exemple, aussi.
Plus solo, oui.
Qui est, solo, voilà, c'est ça. Et en fait, depuis Sailor Moon, les années 90, ça a été le groupe. Et chacune, en plus, ont leur personnalité propre. Et du coup, ça se retrouve aussi dans Magical Doremi, Mimu Power. Et est-ce que vous... vous pensez que ça a un petit peu du coup changé le modèle du Magical Girl, c'est qui du coup un peu les années 90-2000, c'est l'époque aussi des groupes de femmes comme les Spice Girls, Destiny Child et tout machin qui étaient à l'époque très très mis en avant. Est-ce que ça a participé aussi du côté de la culture japonaise à changer en fait le modèle?
Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment réfléchi, mais sûrement. Sûrement qu'il y a eu une évolution qui s'est faite plus vers des groupes dans le Magical Girl, parce que c'est vrai qu'à l'époque, au tout début du Magical Girl, c'était beaucoup de solo, d'héroïnes solitaires et seules, alors que maintenant on est vraiment sur des groupes nombreuses. Et c'est vrai que ça colle aussi pas mal avec toute la culture japonaise, avec les groupes de musique de J-pop, etc., où t'as les KB42 et tout ça, où elles sont vraiment nombreuses, et t'as ce côté, chacune a sa personnalité. Donc, oui, c'est sûr, c'est un fait.
Ouais,
ça a évolué dans ce sens-là de clan.
Et puis chacun peut s'approprier une Magical Girl.
C'est KB48, pas KB42.
Ouais, KB48. Mais c'est pas grave. Mais chacun peut aussi s'attribuer une Magical Girl préférée, notamment dans
couleur,
Sailor Moon. La couleur,
la
personnalité, qu'est-ce qu'elle va renvoyer. C'est aussi ça le but des Magical Girls, je pense. Et c'est ce qui fait que c'était très bon shoujo et que ça marche hyper bien aux yeux du grand public.
Mais j'ai l'impression que c'est pas que centré au Japon, parce qu'on a aussi connu ça, nous, en France, avec...
Les Witch, les Wings.
Ouais, ça a été repris, c'est sûr. Et le côté, chacune a une personnalité, chacune une couleur, c'est intéressant, parce que, en fait, les couleurs souvent disent quelque chose, quoi. Les roses, elle est toujours en rose, qui est un peu réservé, c'est toujours violet, c'est intéressant.
Garçon manqué, c'est bleu.
Voilà, c'est ça.
C'est vrai.
Donc ça permet un peu aussi aux petites filles de s'identifier, de trouver des modèles aussi, de trouver un modèle à travers ce qu'elles regardent, c'est chouette.
C'est vrai.
Et les costumes, justement, en fait, en général, ils mettent en avant une certaine féminité. Elles sont souvent en mini-jupe, en bottes. Alors que du coup, quand elles sont petites filles, par exemple, dans Magical Doremi, elles sont en primaire. Et dans Mew Power, elles sont un peu différents âges. Mais il y a sûrement d'autres... Chocolat Vanilla aussi, elles sont très jeunes. Mm-hmm. Mais du coup, est-ce que le fait que quand elles se transforment, elles aient vraiment des costumes très femmes, en fait, avec des mini-jupes, avec des très féminins, est-ce qu'on peut voir ça comme une métaphore de grandir, comme si elles... prenez ces costumes-là pour affronter les monstres de la vie.
C'est possible.
Moi, je pense que c'est lié aussi au fait que tous les Magical Girls, la plupart, ça se passe à l'école.
Il y a le côté uniforme.
Il y a le côté uniforme et il ne faut pas l'oublier. Ouais. Quoi. Ça fait partie intrinsèquement de la culture japonaise. Donc, quand elles se transforment, il y a toujours ce côté uniforme.
C'est indéniable. Il y aura toujours dans les mangas, c'est toujours très présent. Il y a toujours ce côté très un peu sexy, etc., de l'uniforme. Et qui est tout aussi présent dans le côté shoujo et Magical Girl. Après, on a des exemples comme des vieux Magical Girl avec Utena, où elle est moins habillée comme ça.
Parce que Utena, elle est grave
habillée en mode chevalière.
Ouais, elle est moins inspirée de Lady Oscar.
Oui, voilà, il y a le côté de Lady Oscar, mais du coup, ça existe aussi des Magical Girl où c'est pas avec des froufrous, etc. Mais c'est une majorité quand même. Ouais. Après, est-ce que c'est vrai que... je pense que c'est une bonne métaphore aussi du fait quand elles se transforment, elles sont plus juste les petites filles basiques, lambda de la vie de tous les jours, et qu'elles deviennent des personnages hyper badass qui sont là pour sauver le monde, ouais, et que ça totalement. Montre aussi ce côté plus totalement. Mature et plus responsable.
Et ça fait rêver, en fait. Ça fait rêver le fait d'avoir un groupe de filles au lycée et qu'on se, tu vois, on se batte tout ensemble pour la même quête, pour le même truc.
Et puis, on a besoin de bling-bling, on a besoin de foufou, on a besoin de costumes incroyables parce qu'on veut les mêmes quand on est petite. Enfin, genre, par exemple, pour revenir sur Sakura, chasseuse de cartes, ses costumes sont magnifiques, ils sont créés par sa meilleure amie et tu sens que ça un impact hyper important.
Sa meilleure amie qui est une icône queer.
Ouais, dans l'histoire aussi, quoi. Ouais. Donc, ouais.
Après, on pourrait parler pendant des heures des vêtements des Magical Girls, parce que je pense qu'elles ont toutes leurs attributs.
C'est hyper important dans Magical Girls.
Puis, chez Clamp, ça a aussi une autre signification. Ouais. Je pense qu'elles font vraiment très attention à ça quand elles dessinent.
Peux pas être une Magical Girl en jean. Enfin, ça existera sûrement un jour, mais ça, pour l'instant, c'est pas ce qui colle avec l'image du Magical Girl japonais.
Ouais, je suis d'accord.
Il faut qu'il y ait une différence entre le personnage quand elle est dans sa vie ordinaire de tous les jours et quand elle se transforme en guerrière, entre guillemets, pour combattre et sauver le monde. Il faut vraiment qu'on voit cette différence et son costume de Magical Girl a son importance et c'est pour ça que c'est autant
C'est la double identité,
autant,
quoi.
Ouais, voilà.
C'est la double identité.
Il faut que ça matche,
Sailor
que ça,
Moon, elle a un masque.
Ça captive.
Elle a un masque, elle devient quelqu'un d'autre. Il y a vraiment l'idée pardon,
de transformation,
de transformation, de métamorphose, mettre un masque, devenir quelqu'un d'autre, comme tu le dis. Pourquoi pas mimer une sorte de passage à l'adulte aussi, de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Donc oui, je pense que c'est important, le vêtement. De toute façon, dans les mangas, le vêtement est toujours important. Il est au centre de l'histoire. Les filles, quand elles vont dater un garçon, elles s'apprêtent, que ça soit dans Chocolat Vanilla ou n'importe quoi. Le maquillage est très important aussi. Le maquillage devient même une arme avec les rouges à lèvres.
Ah, c'est vrai.
Voilà, non mais enfin, il y a toujours cet esprit-là. Les attributs féminins deviennent des armes, et c'est aussi ça qu'on aime. C'est ce côté extra femme qui nous permet en fait de devenir des super héroïnes, pardon.
Yes.
Ouais, c'est une sorte de réappropriation en fait de codes féminins qui ont souvent été méprisés. C'est intéressant de voir qu'en fait là, on se les réapproprie pour des armes comme vous dites, quoi. Mm-hmm. C'est hyper intéressant. Et le modèle de la sorcière, c'est beaucoup repris dans les Magical Girls. Par exemple, oui, donc Magical de Rémy ou Little Witch aussi.
C'est la sorcière,
je crois. Et du coup, en fait, est-ce que vous pouvez penser qu'on peut le mettre est-ce que vous pensez qu'on peut le mettre avec le modèle occidental de la sorcière, qui est souvent un modèle féministe, aujourd'hui, ou est-ce que vraiment c'est juste la figure de la sorcière au Japon avec une toute autre signification?
Non, je pense qu'il fallait une figure de méchante classique qui parle à tout le monde, et je suis pas sûre qu'il y ait vraiment ce côté féministe comme nous on peut avoir.
Je pense qu'ils n'ont pas cette conscience-là, parce qu'ils ont aussi pas la même histoire religieuse, etc.
Ouais.
Enfin, je pense que, par contre, faut pas tout mélanger. Je pense que la figure féministe de la sorcière en France, par exemple, elle a beaucoup de crédit, parce que c'est une figure qui est hyper liée aussi au christianisme et à l'histoire, en fait, de la France. À l'héritage du Moyen-Âge, etc., le fait qu'on les ait brûlés sur le bûcher, etc. Enfin, bref, on pourrait faire aussi un épisode total sur la sorcière, donc on va pas aller sur ce terrain-là, mais je pense par contre qu'au Japon, c'est vraiment...
Je pense que c'est juste une figure de méchante.
Ouais, c'est une figure de méchante.
Qui parle à tout le monde et qui est facile.
Mais une figure de méchante qu'on adore, parce que Chocolat, c'est une petite sorcière.
Oh, ouais, non,
elle est hyper hardcore, elle va manger des tarentules, et Vanilla, c'est la sorcière super gentille.
Il y a le côté qui est un peu intrigant, qui fait rêver,
c'est
en même temps qui fait un peu peur, qui le côté un peu mystique, l'envoûtant. Ouais, le côté envoûtant des sorcières.
Elle est un petit peu
bitchy.
Ouais, elle est un peu espiègle,
elle a du charisme de fou.
Elle est bitchy, drôle, quoi.
Ouais. Et je pense que ça colle bien au caractère de sorcière, tu vois. Sailor Moon pourrait pas être une sorcière.
Mais après, encore une fois, c'est aussi des auteurs, en fait. Mmh. On parle de manga, mais on parle pas des auteurs qui sont derrière. Et Moyoko Anno, c'est une auteure de base, celle qui a créé Chocolat et Vanilla, c'est une auteure de base qui a écrit que des josei. Donc c'est une auteure qui adore écrire des histoires sur des femmes
matures,
adultes, etc. Chocolat et Vanilla, c'est son seul manga qui est destiné à un public plus enfantin, on va dire. Et donc, c'est sûr qu'elle va pas faire une histoire, en fait, de Magical Girl classique. C'est Moyoko Anno, c'est une auteure qui est hyper intéressante, elle va puiser dans des inspirations totalement différentes. Et c'est pour ça que Chocolat Vanilla, enfin, pour ma part, moi, c'est un de mes mangas vraiment préférés de tous. Parce que je trouve que, en termes de Magical Girl, il y en a peu qui sont arrivés à ce level-là, à part, par exemple, Uteda ou Sakura Card Captor, qui est aussi magnifique parce qu'il puise aussi plein d'inspirations dans tout l'univers des Clamp. qui est incroyable, et parce que les Clamp, c'est très très grandes auteurs de shoujo. Voilà, mais je pense qu'il faut toujours revenir un peu aussi aux auteurs qui sont derrière les mangas, et elles nous permettent d'avoir des clés pour mieux comprendre les mangas qu'on lit aussi par la suite.
Effectivement, c'est important de rendre hommage ou feumage aux personnes derrière qui ont écrit en fait les mangas, quoi, et les animés aussi, c'est sûr.
C'est intéressant pour les personnes qui veulent découvrir le shoujo de lire ou de regarder, déjà de venir voir notre épisode, évidemment, pour en apprendre plus, mais aussi sinon pour avoir une vision un peu plus chronologique et peut-être commencer par les premiers Magical Girl, genre Utena, etc., qui sont vraiment des classiques. Ensuite, regarder d'autres classiques comme Chocolat Vanilla, Doremi, Sailor Moon et d'autres plus récents, et de vraiment se rendre compte de l'évolution qu'il y a eu, parce que ça montre aussi l'évolution de la culture et de la société japonaise sur la vision de la femme et du shoujo en général. Donc je pense que c'est toujours bien d'avoir un peu cette expérience chronologique pour voir un peu l'évolution.
Et voir que les
clichés se cassent aussi au fur et à mesure, quoi.
Ouais. Et je pense aussi pour ceux qui sont intéressés vraiment par le Magical Girl et qui veulent approfondir, peut-être vraiment quand même commencer par Princesse Saphir de Osamu Tezuka, parce que c'est vraiment une œuvre très théâtrale et qui permet de vraiment poser les bases du shoujo manga déjà, et ensuite du Magical Girl. Et elle s'inspire vraiment de tout l'univers de la revue Takarazuka, et aussi de tout l'univers des auteurs de l'an 24, dont on parle aussi énormément dans notre podcast, qui sont un groupe, un collectif de femmes, encore un collectif, donc tout est vraiment lié au Magical Girl, à la sororité. Il y a toujours cette idée-là, en fait, dans le manga, il faut pas l'oublier. Et oui, pour ceux qui veulent approfondir, je pense vraiment c'est une belle œuvre pour commencer, aussi le Magical Girl, mais voilà, après nous
et les classiques Sakura,
c'est ça, après les classiques, mais n'hésitez pas à écouter notre podcast l'épisode 3 sur les Magical Girl, on fait plusieurs revues et je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui vraiment veulent approfondir.
Oui, et après il y a aussi je pense que vous connaissez la chaîne YouTube Filles Lunaires, je sais pas si vous connaissez.
Pas du tout, mais on ira voir.
Ok, parce que du coup c'est une chaîne YouTube donc Filles Lunaires qui est très très bien là-dessus. Par exemple, elle a fait un épisode sur les couleurs dans les Magical Girls.
Ok.
Donc avec chaque couleur, à chaque fois, on se rend compte de la signification de ce que ça veut dire. Et donc du coup, qu'est-ce que le personnage avec cette couleur-là aborde comme personnalité. Donc c'est assez intéressant. Et puis aussi sur la décortiquer des mangas ou des animés comme Sailor Moon. Donc moi ça m'a beaucoup appris sur les Magical Girls.
Trop bien.
Et après c'est vrai que les shoujo c'est un peu plus compliqué. Il y a la chaîne shoujo Rose Shoujo.
Oui, on la connaît. Oui, on la suit. Ouais. C'est super bien ce qu'elle fait, les rocos et tout. C'est trop bien.
C'est super en termes de rocos. Et puis même aussi elle en parle pas mal de. Elle parle pas mal de choses comme des otomés. Enfin ça c'est assez large, mais du coup les shoujo c'est vrai qu'elle en parle beaucoup. Elle fait des bonnes recommandations. Ça c'est assez chouette.
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font des super recommandations sur Instagram.
Sur Instagram,
c'est vraiment une mine d'or. Il y a des personnes très intéressantes qui d'ailleurs nous inspirent beaucoup aussi pour nous faire nos revues. Hein. Franchement, on prend beaucoup aussi des autres. Enfin, j'espère que c'est un partage mutuel. En tout cas, moi,
je pense
que je le ressens comme ça.
Tout le monde permet de découvrir. Enfin, je pense que nous, on permet de découvrir peut-être des classiques plus anciens. Et on se sert aussi du Bookstagram avec tous les comptes de shoujo et tout pour découvrir des nouveautés.
Ils nous inspirent aussi beaucoup. Ouais. Hein, donc
C'est vrai que nous, on a le côté un peu plus classique et old school.
Oui.
Est-ce que vous avez des bookstagrammeuses ou bookstagrammeurs qui, du coup, vous inspirent et que vous auriez envie de partager, du coup, dans le podcast?
Oui, il y a Plume Seven, normalement. Plume Seven qui fait des très jolies recommandations.
Belle Ambule,
pareil, qui est très drôle en plus, qui fait des TikTok, qui parle face cam et qui nous fait une minute un manga normalement, si je me trompe pas, et c'est vraiment très intéressant, franchement, c'est très cool. Après, on a le podcast de Shonen et eux, ils sont plus dans la chronique. Ça s'appelle YPDLM Podcast. Et eux, ils sont plus comme CNN et Shonen. Mais ce qui est bien, c'est que leurs épisodes sont très longs.
Donc voilà, c'est, il puise vraiment assez loin. On a Fanteria, avec qui on a fait un épisode sur le shonen aussi.
Qui fait des recommandations, voilà, aussi bien shoujo que shonen.
Qui donne des définitions. En plus, son compte, il est super beau. Franchement, elle est...
C'est toujours bien d'avoir une vision d'une femme sur le shonen.
Voilà. Et après, bien sûr, bah, on a... Nous, on a beaucoup de liens aussi avec, avec des personnes qui sont créateurs de contenu autour du manga, mais autre chose, des influenceurs ou bien de mode ou qui écrivent des mangas, qui écrivent des scénarios, ce genre de trucs. Donc, on vous conseille d'aller lire le premier tome de Francisco Terra, Maldito, ou d'aller, par exemple, voir le travail de Jum MZ Art.
Mm-hmm. Qui a été à la Japan Expo, qui voilà. était exposante à la Japan Expo cette année, qui fait vraiment des illustrations incroyables, très inspirées du monde du shoujo.
Ouais, très inspirées du monde shoujo, et ça fait vraiment partie des créatrices de shoujo contemporaines, ouais. en fait. C'est très intéressant, je trouve, d'avoir aussi un point de vue contemporain et français sur cet art. Et voilà, puis après on en a plein d'autres, mais on va vous faire une liste, vous pouvez voir de toute façon sur notre Instagram, on les reposte
Allez,
souvent.
Piocher.
C'est ça.
Bah écoutez, merci de votre écoute et de votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, de laisser une petite note sur Spotify, ça fait toujours plaisir. De vous abonner à l'Instagram Reine des Terres, @ReineDesTerres. Vous pouvez également envoyer une suggestion d'épisode par mail, reinedesterrespodcast@gmail.com. Merci aussi de votre participation à Shoujo Story. Merci beaucoup de toutes ces connaissances, c'était très intéressant.
Bah merci à toi de nous avoir invité, merci beaucoup.
On se dit à dans un mois et je crois qu'on dit Yonatsu. On vient pas l'été, je sais pas si ça se prononce bien.
Oui, c'est bon.
Ok, super.